BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ces deux heures d'émission consacrées à l'actualité des marchés financiers et des placements. Au sommaire ce matin, la prudence justement des marchés financiers avant la réunion des banques centrales. Pour la BCE, pour la Fed, la Bourse de Paris est pratiquement inchangée. L'euro est à son plus haut pratiquement depuis 9 mois face au dollar. On va en parler dans un instant. On va parler aussi géopolitique ce matin. Vu par les investisseurs, le conflit peut-il se durcir en Ukraine? Quelles seraient les conséquences pour les marchés? Qu'attendre du rebond de l'économie chinoise? On parlera également de la crise sociale en France. Ce sera le débat de regard croisé tout à l'heure à 11h10. Le marché de l'immobilier de luxe résiste à la crise. 17 000 euros le mètre carré l'an dernier à Paris, 22 000 euros le mètre carré lorsqu'il y a une terrasse ou un jardin. Pourquoi est-ce que ce marché résiste particulièrement bien? On en parlera dans le Club Immo avec nos invités à 10h15. Et puis les autres rendez-vous de cette matinée, comme tous les jours, la polémique avec Nicolas Dos, ce sera à 10h40. Et puis on parlera d'un secteur d'investissement, le marché des compléments alimentaires. Est-ce une bonne idée? On vous donnera des éléments de réponse tout à l'heure à 11h35. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à midi.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Direction le siège d'Euronext à la Défense, Antoine Larigauderie nous y attend. Bonjour Antoine, la Bourse de Paris en très légère progression.
Bonjour Stéphane.
Rien de folichon.
Oui, rien de folichon, effectivement, une tendance plutôt calme ce matin, et puis un CAC 40 qui déjà techniquement, et on le dit depuis hier, est un petit peu bloqué. Au-delà des 7050 points, il devient difficile d'avancer. La tendance n'est pas forcément mauvaise, mais le signal donné par Wall Street hier soir laisse quand même les investisseurs extrêmement prudents. Alors, premièrement pour des raisons techniques, parce que hier, du côté de la séance sur les marchés américains, ça a été un petit peu la folie. Ça a commencé par des mouvements extrêmement erratiques sur des centaines d'actions qui ont connu de très très fortes baisses, qui ont dû être suspendues. Il y a eu énormément de bugs techniques qui s'en sont suivis. Et donc du coup, un climat plutôt instable du côté de Wall Street. D'ailleurs, l'enquête du NYSE ne fait que commencer. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais il y a eu des problèmes sur les fixations des prix en tout début de séance qui ont provoqué des très fortes baisses. Alors, du côté de Walmart, du côté de Nike, du côté de tout un tas de titres qui ont souffert. Palantir également. Donc, dans tout un tas de secteurs, on s'est fait un petit peu de soucis de voir ces évolutions totalement erratiques. Ensuite, il y a eu Microsoft. Alors, globalement, c'était une bonne nouvelle parce que les résultats parus après la clôture de Wall Street étaient supérieurs aux attentes, supérieurs à ce qu'attendaient les marchés. Évidemment, les performances sont en très forte dégradation, mais il restait un petit peu d'acquis de croissance. Donc, le titre a commencé à monter en après-marché, puis il y a eu la réunion d'analystes, et là, douche froide, et le titre est reparti à la baisse. Donc, partout où on regarde, en fait, on a un sentiment très mitigé, très prudent, et on n'a pas trop de direction ni de catalyseur pour aller plus haut techniquement et fondamentalement. Ça explique justement cette physionomie parfaite ce matin sur les marchés avec un CAC inchangé 7050. On est en légère baisse du côté de l'Eurostock 50 à -0,14 et -0,01 du côté du DAX à Francfort. Et du côté des titres qui signent les plus fortes baisses du moment, alors Unibail Rodamco Westfield qui perd 0,9% à 58,27, mais on a l'ensemble du secteur techno en Europe qui est orienté à la baisse. Capgemini -0,9% 171,60 €. Téléperformance -0,8 à 249,50 €. Dassault Systèmes aussi, -0,8 à 34,46. Tout ça dans le sillage, évidemment, des résultats et des perspectives de Microsoft. Tiens, d'ailleurs, la plus forte baisse du SBF 120, elle est pour OVH, le spécialiste du cloud, qui perd 3,5% à 15,42 €. Ubisoft aussi, qui est entraîné par un des paramètres très attendus des chiffres de Microsoft, qui est celui des jeux vidéo, où évidemment, ça n'échappe pas à la baisse de l'activité. Donc, Ubisoft perd 2,6% à 19,09 €. Qu'est-ce qui reste à la hausse? Pas mal de choses. Valourec qui gagne 3,12% à 13,38. On a BIC plus 2,6 à 65,05. Air France KLM qui est soutenu par Ryanair qui a relevé ses prévisions après de bons trimestriels. Le titre Air France KLM gagne 2,13% à 1,68 €. Puis la plus forte hausse du CAC, elle est pour Renault qui prend 1,7%, 37,98 €. Mention spéciale pour Alstom aussi qui a publié des chiffres convaincants, des perspectives plutôt porteuses. Le titre prend 0,9% à 26,95 €. Le CAC donc quasi inchangé, très très légère baisse, -0,02%. 7049 points. Et l'euro, vous en parlez, ça fait partie des dynamiques du moment. On est toujours en orbite autour d'un 0,9, là juste en dessous. 1,0877, Stéphane.
Merci beaucoup, Antoine Larigauderie, en direct du siège d'Euronext. Prochain point sur les marchés tout à l'heure à 10h30. 10h06, on fait un point sur l'actualité.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Stéphane, et on commence avec cette panne géante pour Microsoft. Elle concerne les services de Microsoft 365, notamment Teams et la messagerie Outlook. Des incidents sont signalés aux États-Unis et en Europe. Le groupe travaille au rétablissement de ses outils. Microsoft qui publie des résultats décevants. La croissance trimestrielle ralentit, c'est même la plus faible enregistrée depuis 6 ans. Le bénéfice net ressort en baisse de 12% sur un an à plus de 16 milliards de dollars. Et si la division cloud a permis de compenser le recul des ventes d'ordinateurs, les perspectives, elles, sont décevantes. Mais le géant américain mise sur ChatGPT, le robot conversationnel dans lequel il a investi près de 10 milliards de dollars. ChatGPT qui fait très peur à Google. Le géant s'inquiète de cette potentielle concurrence redoutable pour son moteur de recherche. Du coup, Google emploie les grands moyens et rappelle ses deux cofondateurs, Larry Page et Sergey Brin, avec l'objectif d'élaborer une contre-attaque. Aux Pays-Bas, le fabricant de semi-conducteurs ASML publie un bénéfice net en baisse de plus de 4% en 2022 à 5,6 milliards d'euros. Malgré une forte demande, la hausse des frais de personnel et des dépenses de R&D pèse, mais le groupe anticipe une croissance de ses ventes de plus de 25% cette année. En France, Alstom publie un chiffre d'affaires en hausse de 8% sur les 9 premiers mois de l'année à plus de 12 milliards d'euros. Les prises de commandes tirées par la demande européenne progressent à 15 milliards d'euros. Le constructeur ferroviaire confirme ses objectifs pour cette année et la prochaine. Dans l'aérien, EasyJet publie des revenus en hausse de 83% après 1,5 milliard de livres au dernier trimestre et la compagnie relève ses prévisions pour cette année, tirées par de bonnes ventes au premier trimestre et de solides réservations en cours au deuxième trimestre. On termine par un mot de la réforme des retraites. Les leaders syndicaux se réunissent aujourd'hui pour tenter de mobiliser dans la durée. CGT et Sud envisagent une grève reconductible à partir de mi-février. L'objectif, c'est de mettre la pression sur le gouvernement au moment des vacances. Les syndicats de la SNCF appellent déjà à la grève les 7 et 8 février prochains, Stéphane.
Merci beaucoup Stéphanie Collo. Prochain point sur l'actualité, ce sera tout à l'heure à 11h. On va parler dans un instant de l'indice IFO qui vient d'être publié en Allemagne. Mais d'abord, notre pépite.
BFM Business, BFM Patrimoine, pépite Zepipo.
Et on va se pencher ce matin sur le titre Dermapharm, groupe allemand spécialisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques. On en parle avec Sébastien Lemonnier, gérant action chez Inocap Gestion. Bonjour Sébastien.
Bonjour Stéphane.
Pourquoi c'est une valeur intéressante ?
Alors la pépite de la semaine, qui n'est pas une recommandation d'achat, mais un exemple parmi nos convictions d'investissement, est bien l'allemand Dermapharm, dont nous avons sensiblement renforcé notre exposition au portefeuille ces derniers mois, notamment au sein de notre fonds Quadrige Europe Midcap, où il constitue actuellement la deuxième principale pondération. Alors, c'est un groupe fondé en 1991 dans la région de Munich et qui concentre l'essentiel de ses profits à produire et à développer une large variété de produits pharmaceutiques de niche non régulés. Sur la base des attendus consensus, le groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires pour 2022 autour de 1 milliard d'euros qu'il réalise majoritairement en Allemagne et il emploie plus de 2500 salariés. Sur l'essentiel de ses produits, Dermapharm bénéficie localement de solides parts de marché en croissance dans les domaines notamment des vitamines, de la dermatologie et des corticoïdes. En effet, l'innovation permanente sur ses produits de marque constitue chaque année un moteur sensible de sa croissance organique, en moyenne historiquement supérieur à 4%. Par exemple, sa principale franchise d'activité, qui réalise un peu moins de 15% de son chiffre d'affaires, est spécialisée dans la vitamine D et profite de la reconnaissance grandissante de sa contribution au renforcement des défenses immunitaires, alors qu'en moyenne, 65% des populations du nord de l'Europe souffrent de carence, notamment par manque d'ensoleillement. Alors, fort d'un actionnaire familial, qui s'est d'ailleurs renforcé à hauteur de 55 millions d'euros ces derniers mois, et d'une équipe de direction en place depuis plus de 10 ans, Dermapharm bénéficie à la fois de grandes efficacités industrielles, notamment sur son principal site de production récemment modernisé situé à Brenna, dans la région de Leipzig, que nous avons visité en novembre dernier, ainsi que dans l'organisation de sa distribution qui participe ensemble à la génération d'une rentabilité opérationnelle du groupe qui a été en moyenne de plus de 18% depuis 2016. Alors que le groupe a profité de son savoir-faire industriel pour participer à la production du vaccin BioNTech contre le Covid, où il a généré un chiffre d'affaires autour de 150 millions d'euros pour une rentabilité élevée. La normalisation en 2022 du contexte sanitaire a fortement impacté à la baisse les estimations du consensus sur l'évolution à venir des profits du groupe, ce qui explique notamment la baisse du titre en 2022 d'environ moins 60%. Pour autant, nous estimons désormais que les qualités intrinsèques de Dermapharm ne sont potentiellement pas bien appréhendées dans la valorisation actuelle du groupe. En effet, en retraitant selon nos estimations de la contribution du vaccin de BioNTech, le titre reste sur un multiple d'environ 12 fois le résultat opérationnel, en dépit d'une activité robuste à travers le cycle, de position leader sur la majorité de ses produits de niche, d'une rentabilité opérationnelle de plus de 18% et d'un retour sur capitaux employés de plus de 20%, ce qui est sensiblement supérieur au coût du capital. Aussi, au démarrage de cette année 2023, nous estimons que le groupe amorce un nouveau chapitre dans son accélération de croissance suite à la récente acquisition du groupe français Arco Pharma, spécialiste européen dans les domaines de la phytothérapie, des médicaments naturels et des compléments alimentaires, qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 200 millions, avec historiquement une croissance organique de ses activités qui a été en moyenne de 4 à 5% par an. En effet, nous pensons que cette opération de croissance externe devrait permettre au groupe d'internationaliser ses succès commerciaux, notamment en France, en Espagne et en Italie. La complémentarité des offres produits des deux entités nous laisse penser que le groupe devrait bénéficier dès 2022 de sensibles synergies de vente, lesquelles devraient être en partie dévoilées en mars prochain, lors de la publication des résultats annuels du groupe.
Merci beaucoup Sébastien Lemonnier, Inocap Gestion, l'objectif de cours moyen, attention ça n'est pas l'objectif de cours d'Inocap, 58,60€, c'est un consensus, pratiquement 55% de potentiel de hausse. On va parler du climat des affaires à présent.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Le climat des affaires qui continue de se redresser en Allemagne, l'indice IFO est repassé au-dessus des 90 au mois de janvier. Troisième hausse consécutive après un point bas qui avait été enregistré en septembre et octobre dernier. On va commenter cette évolution avec Yvan Mamallet, économiste senior Europe à Société Générale. Bonjour Yvan, merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que le climat des affaires se redresse en Allemagne? Est-ce qu'il y a des raisons objectives à cette hausse?
Bonjour, alors déjà pour commencer un peu sur les chiffres en soi, effectivement, troisième rebond, on est surtout au plus haut depuis l'été dernier, depuis la fermeture de Nord Stream 1 et donc depuis l'envolée des prix du gaz. Donc bonne nouvelle, un signe supplémentaire que en fait la récession que l'on nous promettait en Allemagne, en fait, non seulement elle n'a pas eu lieu en 2022, mais elle s'éloigne au moins pour les premiers mois de 2023. Alors il ne faut pas crier victoire trop vite. Mais pour nous, les raisons derrière ce rebond, en fait, il faut regarder les fondamentaux. On a des entreprises qui ont des marges bénéficiaires qui sont élevées. On a un marché du travail qui se tient très bien. On a un revenu disponible réel des ménages en Allemagne qui est resté en une croissance positive au troisième trimestre, vraisemblablement au quatrième trimestre. Donc, quelque part, une économie qui a les moyens de résister à la crise énergétique et à l'augmentation des taux d'intérêt.
Remontée également des indices PMI dans la zone euro, ils ont été publiés hier matin. L'indice composite pour janvier est passé au-dessus des 50 points, 50,2 précisément, ce qui veut dire qu'on est de nouveau en phase d'expansion. En revanche, Yvan, la tendance n'est pas complètement homogène dans tous les pays. Par exemple, en France, on a vu que le secteur des services s'était légèrement contracté, et en Allemagne, c'est le secteur manufacturier qui continue de reculer.
Oui, c'est toujours assez difficile à lire les indices PMI parce qu'il y a beaucoup d'indices qui sortent en même temps sur plusieurs pays, etc. Je pense que l'important, c'est voir effectivement l'indice composite de la zone euro qui est effectivement repassé au-dessus de 50, qui est comme l'indice IFO, hein, on est revenu au niveau d'avant l'été, c'est-à-dire on a effacé quelque part toute la baisse, le surpessimisme qu'on a vu pendant la deuxième partie de l'année de 2022. Et ce qui me paraît aussi intéressant dans l'indice PMI, c'est que regardez composante par composante sur l'indice composite, toutes les composantes ont augmenté par celle des prix qui elle continue de diminuer, mais important également la composante emploi qui n'est jamais passée en dessous de 50, elle a également remonté. Donc vraiment un sentiment que la situation économique en zone euro, comme en Allemagne, est plutôt positive. On a eu d'autres indicateurs. On a par exemple les immatriculations de véhicules la semaine dernière en augmentation de 14% sur le quatrième trimestre. Donc ça veut dire qu'on a une consommation au quatrième trimestre en zone euro qui a vraisemblablement une croissance positive. Donc une fois encore, une économie de la zone euro qui semble bien résister au double choc qu'elle connaît.
Première réunion de l'année pour les banques centrales, les grandes banques centrales, ce sera la semaine prochaine. Réserve fédérale américaine mardi et mercredi. Banque centrale européenne jeudi. On peut aussi ajouter la BOE, ce sera jeudi. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces réunions?
Alors, sur les réunions de la semaine prochaine, le consensus des économistes, le marché, je m'inclus dans le consensus des économistes, on s'entend tous, en fait, à une hausse de 50 points de base de la part de la BCE, de la part de la Banque d'Angleterre et 25 points de base de la part de la Fed. Il me semble donc il y a peu de suspense de ce point de vue-là. Vraiment, l'incertitude, c'est plus sur la politique monétaire à venir et sur la communication que vont mettre en place les banques centrales. Sachant que les marchés semblent plutôt penser que la Fed, notamment, est proche de la fin, que la BCE pourrait ralentir assez rapidement ses taux, que le pic de taux d'intérêt est proche pour les principales banques centrales dès que le pic sera atteint, les banques centrales pourraient rebaisser rapidement leur taux d'intérêt. Ce n'est pas du tout notre vision. Pour nous, on a encore, enfin, le travail est clairement loin d'être fini pour les banques centrales, notamment pour la BCE. Et surtout, pour nous, les premières baisses de taux, par exemple pour la Fed, ça ne viendra pas avant début 2024. Pour la BCE, il faudra vraisemblablement attendre pour la première baisse de taux fin 2024. Donc, en termes de communication, c'est là-dessus que je veux insister, hausse de taux probablement en ligne avec ce qu'attendu, mais communication, selon nous, qui pourrait toujours être sur un ton très dur, au quiche pour comme on dit, sur les marchés.
Merci beaucoup, Yvan Mamallet, économiste senior Europe à Société Générale. Si vous avez 17 000 euros à investir, vous pouvez acheter un mètre carré dans le secteur du luxe à Paris. On en parle tout de suite.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Le rendez-vous du mercredi avec les enfants, c'est le Club Immo sur BFM Business. Au sommaire cette semaine, le marché de l'immobilier de luxe qui résiste à la crise, l'immobilier tertiaire qui lui est confronté à la remontée des taux et aux contraintes environnementales. On parlera également des foncières cotées et du marché des SCPI. Nos invités cette semaine, Virginie Grollo, journaliste au magazine Challenge. Bonjour Virginie. Bonjour à vous également, Gaël Thomas, directeur de la rédaction de Business Immo. Bonjour. Et Marie Cœur de Roy, spécialiste de l'immobilier à la rédaction de BFM Business. Bonjour Marie. Bon. En maîtresse de cérémonie. On va commencer par l'immobilier de luxe et justement, on va planter le décor avec vous, Marie. À Paris, le prix moyen du mètre carré sur ce segment a dépassé les 17 000 euros l'an dernier. Je crois même que c'est 21 000 s'il y a une terrasse ou un jardin.
Oui, alors il y a deux choses assez intéressantes. Alors, il y a différents réseaux d'immobilier de prestige qui ont publié leur data pour l'année 2022. Effectivement, là, ce sont les chiffres de Daniel Féo. Le prix moyen au mètre carré à Paris pour l'immobilier de prestige, c'est plus de 17 000 euros à comparer effectivement aux 10 500, 10 700 au même moment pour les notaires, donc sur le commun des mortels, j'ai envie de dire. Le commun des mortels à plus de 10 000, c'est déjà pas mal, mais alors effectivement sur l'immobilier de prestige, plus de 17 000, c'est 11% de plus qu'en 2019, donc c'est assez important comme hausse du prix moyen au mètre carré. Et effectivement, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on voit que évidemment, les riches, comme nous tous, commun des mortels, ils ont envie de quoi? D'avoir l'espace extérieur, et cet espace extérieur, cette terrasse, ce jardin, il est forcément beaucoup plus valorisé, surcoté aujourd'hui, après la crise sanitaire et les différents confinements. Alors vous le disiez, on est au-delà de 21 000 euros quand on a une terrasse ou un jardin au mètre carré dans l'immobilier de prestige. Ce qui est important, c'est cette surcote par rapport à l'immobilier de prestige, j'ai envie de dire, traditionnel sans espace extérieur. On a une surcote d'environ 25%, c'est ce que nous dit Daniel Féo. Donc on voit bien à quel point ces enjeux-là, ils pèsent à la fois pour le marché immobilier traditionnel, mais comme pour les riches, les plus aisés, et effectivement avec des prix stratosphériques quand il s'agit d'immobilier de prestige, en particulier à Paris, oui.
Virginie.
Alors, c'est vrai ce que dit Marie, cette étude, elle était assez intéressante. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que il y a pas que Paris. Il y a aussi la province,
tout
à fait. Et on voit d'ailleurs dans les cœurs de ville des biens devenir de plus en plus chers, dépasser le million d'euros, etc., etc. Dans les grandes villes, que ce soit Nantes, que ce soit Bordeaux, que ce soit plus, donc les grandes villes, plus toutes les zones côtières, notamment évidemment le bassin d'Arcachon, toute la zone de Biarritz, et évidemment toute la Côte d'Azur, tout le Luberon, enfin tout un tas d'endroits où il y a plus la montagne aussi d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. L'immobilier de luxe en France a très très bien fonctionné. Ce que notent quand même certains réseaux, que ce soit Sotheby's ou Barnes, c'est un petit ralentissement tout de même sur le dernier trimestre 2022, parce que on peut échapper à plein de choses et puis à un moment il y a quand même la réalité, elle vous rattrape un petit peu. Le contexte global, même pour des acquéreurs fortunés, même si on a vu le retour des Américains avec la parité euro-dollar, à un moment il y a un peu moins de liquidité, c'est un peu plus compliqué, il y a un peu plus d'attentisme, donc il y a eu un ralentissement quand même en fin d'année dernière. Et il y avait un petit point sur Paris que citait Barnes, c'est que eux aussi ont été confrontés, ces acquéreurs même très riches, ont été confrontés à la problématique du taux d'usure, hein, dont on a parlé pendant des semaines.
Même les riches.
Des mois, oui, mais oui, puisque mécaniquement, à un moment, vous empruntez, vous calculez votre emprunt, les frais, l'assurance, etc., etc. Et ce que dit Barnes, c'est que pour eux, 5%, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 0,5, et là, c'est 5% des promesses de vente ont été cassées à cause des problèmes de financement. Puisque vous pouvez avoir, pour d'autres raisons, pas tant parce que vous en avez besoin, mais parce que stratégiquement, quand vous constituez un patrimoine, c'est plus intéressant de faire appel au crédit que de piocher dans son épargne qui peut être placé sur soit des placements plus rentables, soit c'est pas la peine de prendre votre perte en bourse, vous pouvez attendre un peu, vous n'avez pas forcément besoin de vendre tout de suite, vous pouvez attendre un peu que les cours remontent, comme ils ont remonté ces derniers temps. Donc c'est un choix de stratégie patrimoniale, et c'est là aussi où on voit cette entre guillemets professionnalisation presque de ces investisseurs, puisqu'à ce moment-là ça devient de l'investissement aussi. Vous allez notamment miser sur la location saisonnière, la location touristique, que ce soit une villa sur la Côte d'Azur, que ce soit le bassin d'Arcachon, que ce soit un très beau chalet à la montagne. Ces personnes fortunées ont aussi une stratégie et n'hésitent pas à mettre en location leurs biens. C'est là où après ça fait donc travailler toute une économie locale, hein, parce que c'est le tourisme, la France championne du tourisme, donc c'est un espèce de cercle un peu vertueux qui se met en place. Donc c'est important que l'immobilier de luxe se porte bien pour ces raisons-là. Après, on assiste à ce petit ralentissement et les réseaux disent tout de même, il peut y avoir des corrections de prix l'an prochain. Coldwell disait, on achète, même ces acquéreurs-là n'achètent pas forcément ce qui est superflu. Donc, on peut s'attendre quand même à éventuellement, en tout cas, ne plus suivre les prétentions des vendeurs, mais avoir des achats, entre guillemets, avec des prix un peu moins élevés, des marges de négociation un peu plus importante.
Gaël, pourquoi est-ce que ce segment, il est déconnecté du reste du marché ?
Pour moi, c'est juste le prix de la rareté.
Oui.
Donc en fait, vous avez une demande qui est internationale, et quand bien même on veut fustiger tous les milliardaires en France ou les taxer à 70% comme le voudrait Stiglitz, la demande elle est globale. Et en fait, le marché, quand vous regardez juste le marché parisien, il est pénurique. Donc il y a très très peu de biens à vendre, et donc en fait c'est juste le prix de la rareté. Cette déconnexion entre l'offre et la demande fait que les prix montent. Et en fait, même sur les espaces extérieurs plus 25%, même sur les grandes surfaces plus 32%, c'est contre-intuitif. D'habitude, une terrasse ou un balcon, vous le pondérez en termes de mètres carrés. Une grande surface, vous vous dites en ratio au prix au mètre carré, c'est moins cher.
C'est de la vente en gros, quoi.
Bah là, c'est contre-intuitif parce qu'il y a assez peu de biens. Et en fait, on a entretenu une forme de rareté du logement en France, particulièrement à Paris. Je pense que ça sanctionne aussi peut-être 30, 40 ou 50 ans de non-politique du logement. On a un décalage entre l'offre et la demande. Et si j'extrapole un petit peu et que je sors et que je m'intéresse au commun des mortels, bah aujourd'hui, on a un manque de logement. Je crois qu'il y a des estimations, on a toujours le fameux chiffre des 500 000 logements neufs qu'il faudrait construire
chaque année,
par an. Il y a aussi quelques chiffres qui disent qu'en Île-de-France, il y a 12 millions de personnes, il y a 7 millions, il y a 5,9 millions de logements, il en faudrait 7 pour loger tout le monde correctement. Donc il y a ces espèces de décalage entre l'offre et la demande, et le marché du luxe, ça met juste la focale sur un marché pénurique. Et vous savez quoi ? On ne construit pas à Paris, on ne peut pas surélever à Paris, on entretient toujours cette pénurie. Moi, je vois pas ce marché s'écrouler. En 2022, il y a eu un effet report aussi valeur refuge. Les hedge funds et tous les placements en bourse, etc., les placements obligataires se sont effondrés. Qu'est-ce qu'ils font, les riches ? ils mettent l'argent dans le coffre et le coffre, c'est la pierre.
Moi, je suis assez d'accord avec Gaëlle sur l'idée qu'effectivement, je ne vois pas ce marché, en tout cas ce marché du luxe, s'effondrer du tout. Peut-être des petites corrections, mais même les petites corrections, même si effectivement, eux aussi, les ménages aisés, ils ont été touchés d'une manière ou d'une autre par le taux d'usure, on n'était pas dans une même mesure que pour le commun des mortels. Pourquoi ? Il suffit de regarder, là, je regardais récemment les chiffres de CAFPI, du courtier CAFPI, sur les taux d'intérêt accordés à ceux qui achètent des biens au-delà du million d'euros. Vous voyez la différence, c'est-à-dire que forcément, quand on dit que les banques ne prêtent qu'aux riches, c'est caricatural, d'accord, mais c'est à moitié vrai aussi, c'est-à-dire que effectivement, les meilleures conditions d'emprunt et les taux les plus faibles, ce sera pas pour le commun des mortels, ce sera
mais arrêtez,
surtout
vous
pour
voulez
les,
mettre tout le monde
les,
dans la rue la
les personnes
prochaine.
Exactement, pour les personnes aisées. Alors derrière, effectivement, le taux d'usure il pose problème, pas seulement par le taux d'intérêt que va proposer la banque, mais aussi pour l'assurance de prêt. Et pour le coup, même si maintenant on a de jeunes start-upers qui ont énormément d'argent, vous avez aussi des gens plus âgés qui ont constitué un patrimoine, qui sont très aisés et qui sont aussi très impactés par le niveau de leur assurance de prêt qui, elle, pour le coup, va pas forcément dépendre uniquement de vos moyens financiers, mais aussi de votre état de santé. Et ça, pour le coup, on est tous plus ou moins logés à la même enseigne. Mais il y a quand même un vrai sujet, effectivement, sur oui, il y aura une correction. Mais comme d'habitude, effectivement, la correction, elle sera quasi inexistante ou beaucoup plus faible que pour le commun des mortels. Et c'est une réalité, malheureusement, qui se vaut dans tous les secteurs, y compris celui de l'immobilier, je pense.
Gaëlle a soulevé un point intéressant, Virginie, mais il y a luxe et luxe. Il y a le segment ultra-luxe où là, il y a effectivement un effet rareté. Puis après, il y a l'appartement un petit peu amélioré avec des robinets en or. Je caricature.
Wow.
On ne peut pas tout appeler immobilier de luxe.
Non, on ne peut pas tout appeler immobilier de luxe. Ça correspond aussi... Alors, vous avez une espèce de standard international qui est extrêmement clé en main. C'est décoré, vous avez le service de conciergerie pour beaucoup d'acquéreurs étrangers. Il y a la climatisation, je vous rappelle la petite canicule à Paris l'an dernier, c'était quand même c'est aujourd'hui un critère important, c'est l'espace extérieur, etc., etc. Donc il y a c'est bien où certains sont extrêmement rares, c'est-à-dire qu'en plus ils ont une histoire, ils ont un style architectural très particulier, plus cette décoration, ces rénovations, etc., etc. On est dans le trophy property.
Et puis une vue peut-être intéressante.
Une vue, tous les critères, l'adresse, l'emplacement, enfin tous les critères, vous les cochez un par un et la liste est longue. Donc ça, c'est vraiment, effectivement, on peut... et puis surtout, ce que dit Gaëlle, c'est extrêmement rare. Un hôtel particulier qui, je vais dire n'importe quoi, a appartenu à...
n'importe... La Fayette.
Oui, voilà, par exemple, ce qui vous voulez, il n'y en a qu'un. C'est tout. C'est le prix de la rareté. Après, il y a effectivement de très belles rénovations, des choses qualitatives qui, par contre, auront peut-être un petit défaut, c'est-à-dire que le balcon sera petit, enfin, ce sera un balcon filant et pas une vraie terrasse, etc., etc. Et chaque critère a son impact. Pour autant, je suis assez persuadée, enfin, sur Paris ou même sur la Côte d'Azur, de toute façon, une fois que vous avez un périmètre défini, on ne peut pas construire. Donc, voilà, ce qui est rare est cher.
La suite du Club Immo, ce sera dans une dizaine de minutes. On parlera de l'immobilier tertiaire confronté à l'inflation, à la remontée des taux, aux contraintes environnementales. On dira un mot également des foncières cotées et du marché des SCPI. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Il est 10h30 sur BFM Business. On va faire un point sur la séance en cours à la Bourse de Paris. Le CAC vient de passer en territoire positif. Très légère baisse, à peine 0,01%. 7046 points. On va commenter cette séance avec Gilles Santacreux, trader et administrateur du site boursicoteur.com et Mathieu Serron, trader chez Perceval Finance. Gilles, on va commencer avec vous. Votre regard sur cette séance, est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'attentisme quand même avant la réunion des banques centrales la semaine prochaine ?
Oui, effectivement, on est actuellement dans une phase où il y a très peu de volume. D'ailleurs, ce matin, c'est encore très peu nourri en termes de volume, encore moins que d'habitude. On a un mouvement qui, depuis le début de la semaine, est poussif. On a un petit mouvement de hausse, mais qui évolue dans très peu de volatilité, avec très peu de volume. Et au regard de la phase de consolidation que nous avons connue jeudi, on peut considérer que l'on est dans un mouvement qui est purement technique, qui pour l'instant, n'invalide pas en tout cas l'impulsion baissière que nous avons connue justement en fin de semaine dernière. Alors, pour cela, il y a un élément qui nous permet, je dirais, de mesurer cette configuration, c'est le gap qui s'est ouvert jeudi. On avait le haut du gap, donc, qui correspond donc à 7072.45, et ce matin, malgré un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme, et voire même intraday, on a marqué 7070.84. Et puis, on est redescendu, là, on redescend encore, hein. Bon, chez moi, on est en territoire négatif. Donc, clairement, on ne parvient pas à combler cet élément qui a quand même envoyé un gros signal baissier au marché et à repartir vers de nouveaux plus hauts. Non, il semblerait que ce gap agisse comme résistance qui, d'un point de vue technique, correspond justement à une possibilité de retournement de tendance. Alors, malgré tout, cette phase de consolidation, elle reste assez restreinte. On est venu tester un retracement de Fibonacci à 23,6%. Ce niveau, il est à 6963 points. Si on avait une rupture des 6950, là, on pourrait effectivement connaître une accélération de la phase de consolidation. Mais pour l'instant, tant que l'on est au-dessus, et donc sous la zone de point haut et sous le gap, on peut considérer que nous sommes dans une phase de consolidation horizontale, avec un retour donc du CAC 40 dans des zones, je dirais, d'équilibre, effectivement, dans l'attente des chiffres donc des PCE Core et des chiffres majeurs donc qui vont arriver en fin de semaine. Hein, c'est jeudi et vendredi. Donc, on l'a vu, même avec Microsoft, on a très peu d'impact sur l'Europe. Donc globalement, un marché attentiste, très peu de convictions, très peu de mouvements, très peu de volatilité. Et donc, on n'a plus qu'à attendre, je dirais, les événements majeurs de cette fin de semaine.
Mathieu Serron, Perceval Finance, votre regard sur cette séance, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ?
Oui, tout à fait. Nous sommes dans la phase de pause que nous évoquions d'ailleurs avec Gilles en début de semaine. Les marchés attendent un nouveau catalyseur avec une situation économique qui semble s'améliorer un petit peu. En témoignent les PMI qui ont été publiés hier au-dessus des attentes. Sur le front des entreprises, c'est plutôt pas mal non plus, avec des chiffres qui sont plutôt bons dans l'ensemble, à l'image de ce qu'a publié Alstom ce matin, un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et des commandes supérieures à ce qui est attendu. Donc on s'attend toujours à pas grand-chose en définitive, à des marchés qui devraient rester très hésitants. Rien d'annonciateur encore d'un fort repli, donc on peut s'attendre à une zone d'évolution un petit peu large entre 6950 et 7100 la plupart du temps. Il faudra surveiller le franchissement soit la hausse, soit la baisse de cette zone-là pour déclencher à la hausse une impulsion éventuellement haussière et puis à la baisse une impulsion un petit peu baissière. Mais sur le fond, la tendance, bien évidemment, elle reste haussière. On tend vers une neutralisation à court terme, mais c'est pas bien méchant non plus. Et nous, dans cette phase-là, on continue d'acheter. On a un petit support autour des 7040 pour tenter un rebond. Ça va jusqu'à 7020, le plus bas d'hier. Gilles le disait, les volumes qui sont extrêmement faibles. Sur le CAC, on est à environ 300 millions à 10h30, c'est vraiment pas beaucoup. On retrouve aussi un manque d'intérêt sur les petites et moyennes capis, où là, il y a très très peu de spéculation. On attend aujourd'hui des résultats d'entreprises importants. Avant séance des États-Unis, on aura Boeing, et après clôture, on aura Tesla et IBM. Et je finirai aussi par des annonces de biotech. Donc les biotech, c'est toujours des dossiers compliqués à travailler. Et là, on a appris ces dernières heures la mise en redressement de l'Isogène et la liquidation d'Enov. Donc attention, justement, dans ces phases où parfois on peut s'ennuyer sur les marchés, certains sont tentés d'aller sur des dossiers extrêmement spéculatifs, car risqués. Faites attention, parce que toutes les sociétés ne se valent pas, et parfois, il vaut mieux rester un petit peu sur la touche, garder ses munitions pour un petit peu plus tard. Nous, par exemple, dans une approche moyen-long terme, on guette des replis jusqu'à, par exemple, 6008, éventuellement 6006, pour reprendre des initiatives un petit peu plus fortes sur les actions. C'est vrai que là, on se contente plutôt d'accumuler des écarts, mais on accumule des écarts un petit peu partout. Vous voyez, on n'est pas dans une phase où on a un objectif fort et on laisse porter des positions. C'est plutôt l'accumulation d'écarts à très court terme.
Merci beaucoup Mathieu Serron, trader chez Perceval Finance. Merci également à Gilles Santacreux, trader et administrateur du site Boursicoteur. Il est 10h36, la polémique, Nicolas Dose.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors pour le coup, c'est un sujet polémique, le service minimum. Est-ce que c'est un frein au droit de grève ? C'est ce que pense en tout cas Philippe Martinez, alors qu'hier le ministre des Transports, Clément Beaune, a dit vouloir améliorer le système actuel. Quelle est la réalité du débat autour du service minimum ?
Alors la première réponse, non, la loi de 2007, car elle date de 2007, n'a jamais empêché personne de faire grève. Et deuxième élément, non, cette loi de 2007 n'a jamais assuré qu'on aurait un minimum de transport aux heures de pointe, les jours de grève.
Pourtant, c'est ce qu'on croit.
Eh ben, elle est très, très, très mal nommée, cette loi. Service minimum, on se dit, on aura au moins un minimum de trains, un minimum de RER, un minimum de bus. Ça n'est absolument pas le cas. Elle a été très mal nommée. Elle induit en erreur tout le monde depuis 15 ans.
Alors, ça veut dire quoi, service minimum, si ça signifie pas avoir un minimum de trafic dans les transports collectifs les jours de grève?
Ça signifie que les agents des services publics qui veulent faire grève doivent le faire savoir 48 heures avant le jour J. Et qu'avec cette information, l'opérateur de transport, par exemple la SNCF, compte sur ses effectifs de grévistes, ses effectifs non grévistes, et au regard des forces dont elle dispose, elle est en capacité de dire le jour de la grève quel est le service minimum qu'elle peut garantir. En fonction du nombre de gens qui ne font pas grève, je suis capable de vous garantir ce service-là. Mais c'est pas l'assurance qu'il y aura un minimum de trains. Et si vous avez 100% d'agents grévistes, eh ben le service minimum, il est égal à zéro parce qu'on ne peut faire rouler aucun train. On l'a vu, la preuve, le 19 janvier, il y avait des lignes de métro totalement fermées toute la journée. Et donc voilà, cette loi du service minimum, elle permet simplement aux entreprises de transport de permettre de garantir quelque chose en fonction du nombre de gens qui ne font pas grève. Mais on l'a très très mal nommée encore une fois, ce qui fait qu'elle a inscrit dans la tête des gens que c'était un minimum de trafic assuré, ce qui n'est donc pas le cas.
Mais qu'est-ce que souhaite faire le gouvernement pour la modifier?
Alors Clément Beaune nous dit qu'une solution serait peut-être d'exiger que le préavis de grève des agents grévistes ne soit pas 48 heures avant, mais 3 jours ou 4 jours avant. Bon, pour l'instant, rien n'a été décidé. Emmanuel Macron, avant Noël, où on a eu cette grève-là, au moment des fêtes, a demandé à Elisabeth Borne de réfléchir à la mise en place d'un système qui permette d'assurer la continuité des services publics en toutes circonstances.
Ça veut dire quoi, réquisition?
Ah ben, il n'y a pas d'outils qui ont été donnés, mais assurer la continuité des services publics en toutes circonstances, là, ça ressemble plus à la façon dont on a compris le terme service minimum il y a maintenant une quinzaine d'années. Je rappelle que la notion de continuité de service public, elle est inscrite dans la Constitution. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi? Il faudrait une nouvelle loi, mais il n'y aura pas de nouvelle loi en ce moment. Celui qui fait une loi pour modifier les services minimums est immédiatement accusé d'entacher le droit de grève et le climat est un peu tendu, on va dire, en ce moment, donc il n'y aura pas de loi, c'est à peu près évident. Pourtant, une amélioration du service minimum, comme les gens l'ont compris, à juste titre, elle est plébiscitée par l'opinion. Ils sont majoritaires contre la réforme des retraites, mais il y avait un sondage de Doxa au mois de novembre qui disait que 3 Français sur 4 étaient favorables à l'idée que dans les transports, il y ait par exemple des réquisitions pour assurer cette fois-ci, au sens tel qu'on l'a compris autrefois, un minimum de services aux heures de pointe.
Et qu'est-ce qui serait envisageable pour faire évoluer le service minimum sans toucher au droit de grève?
Alors, on a bien compris. Aujourd'hui, compte tenu de l'ambiance super détendue, rien. Après, il y a la solution Europe du Nord. En Europe du Nord, il est clairement dit qu'une grève ne peut se faire que contre son entreprise. Mais à la limite du raisonnement, c'est que là, la réforme des retraites concerne toutes les entreprises. Et puis ensuite, quel dialogue social installer dans une entreprise quand la direction de l'entreprise n'a absolument pas la main sur une réforme qui n'est pas une réforme de l'entreprise ou interne à l'entreprise, mais une réforme décidée par l'exécutif et pilotée par le pouvoir politique. Après, vous auriez la solution italienne. Le droit de grève ne peut pas aller contre le droit à la mobilité des citoyens, qui est aussi un droit constitutionnel chez nous. Bon, la mobilité, c'est pas les transports en commun, mais bon, voilà. Et donc, on fait comme en Italie, ben, pas de grève à Noël, pas de grève à Pâques, pas de grève pour les congés de la Toussaint, pas de grève pour les grands départs de vacances d'été, pas de grève le jour de la fête nationale le 2 juin, pas de grève les jours d'élection locale, pas de grève les jours d'élection nationale. C'est un fonctionnement à l'italienne. Vous me demandez des pistes, et là, il y en a une qui aurait évité le psychodrame qu'on a eu au moment de Noël. Et puis, la meilleure des solutions, mais là aussi, je suis pas très, très optimiste, c'est de réussir à une forte amélioration du dialogue social dans les entreprises pour y faire baisser la conflictualité. Mais ça, c'est la meilleure solution, c'est la plus vertueuse. Je suis pas très optimiste.
Système à l'allemande.
Oui, par exemple.
De la négociation permanente. Merci beaucoup, Nicolas Dose.
Donnez-nous les syndicats matins. Allemands, peut-être qu'on y arrivera.
IG Metall, on dirait comment en français? IG Metall. Merci beaucoup, Nicolas Dose. La polémique tous les matins à 10h40. Nicolas Dose, bien sûr, c'est aussi les experts tous les matins sur notre antenne de 9h à 10h. Il est 10h41. Retour au Club Limo.
BFM Business, BFM Patrimoine, le Club Imo.
La deuxième partie du Club Imo avec toujours nos deux invités, Virginie Grollo, journaliste au magazine Challenge, Gaël Thomas, directeur de la rédaction de Business Imo, et Marie Cœur de Roy, spécialiste immobilier à la rédaction de BFM Business. On va parler d'immobilier tertiaire dans un instant, mais d'abord avec vous, Virginie, on voulait évoquer des arnaques bancaires qui se multiplient.
Oui, c'est notamment l'AMF qui tire la sonnette d'alarme. Alors vous aviez les placements avec les livrets hyper rémunérateurs, sans aucun risque, etc. Vous avez les crypto-monnaies, etc. On voit le procès, l'action collective contre les influenceurs qui se met en place. Et vous avez aussi l'arnaque aux faux conseillers bancaires qui pullulent en ce moment. Par exemple, vous avez déposé une demande de crédit immobilier, vous faites pas très attention. On vous rappelle, les discours aujourd'hui sont extrêmement construits, extrêmement précis. Et vous vous retrouvez embarqué à devoir faire un virement, etc., etc. Et hop, donc ça pullule en ce moment, c'est un petit warning, il faut faire très attention, on ne communique pas ses données personnelles, on ne communique pas ses codes personnels, et si on a un doute, on raccroche et on rappelle sa banque. Il y a plein de problèmes sur les faux conseillers bancaires en ce moment, et ça, il faut faire très attention.
Mais j'ai pas compris le mécanisme, ce sont de faux conseillers bancaires, oui, qui s'immiscent dans un dossier, une demande de crédit existante,
par exemple,
ou est-ce que c'est une demande de crédit qui était faussée dès le départ, c'est-à-dire
non.
Une offre, vous donnez des infos et en fait c'est une demande de crédit en fait qui est du phishing.
Alors, il y a différents... il y a tous les systèmes, j'allais dire. C'est ça la difficulté. Mais vous avez, par exemple, vous êtes dans un projet immobilier, vous vous en êtes vanté sur les réseaux sociaux, vous avez pu en parler à plein de gens. Vous avez fait
une simulation
2, 3, 4, 5 chez différents courtiers. Alors, vous vous souvenez plus qui vous a refusé, mais finalement, vous avez un conseiller d'un nom très connu qui vous rappelle ou d'une banque très connue.
Dites-vous bien qu'on vous rappellera pas pour ça. C'est à vous de faire les démarches pour aller...
C'est ça. Donc, vous êtes, comme à un moment, vous êtes occupé. On vous dit, il y a une erreur de virement dans votre dossier. Si ça correspond, de toute façon, c'est de la pêche. Hein, donc, les arnaqueurs tentent tout. Et par hasard, ça tombe sur vous parce que c'est le moment où vous ne faites pas attention, mais vous êtes dans ce projet et on vous demande de faire un virement pour débloquer votre dossier. Si vous êtes dans un achat immobilier, par exemple, vous vous dites, oui, je vais faire le virement, je vais déposer mon apport. Il y a eu plein d'histoires ces derniers temps là-dessus. C'est pas nouveau, hein, ça existe depuis des années, mais les techniques aujourd'hui se sont nettement amélioré et donc il y a de plus en plus de contentieux là-dessus.
Et dans un contexte où il est de plus en plus difficile d'obtenir un prêt bancaire.
On a tendance à se précipiter. Qu'est-ce qu'on fait, Marie ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien là pour le coup. Effectivement, c'est ce que disait Virginie. En fait, dites-vous bien que quoi qu'il arrive, vous n'avez pas un banquier venu de nulle part, mais même le vôtre qui va vous appeler en disant oui, j'ai bien vu que vous aviez un projet immobilier, c'est bon, envoyez-moi de l'argent. Enfin, c'est à aucun moment faut pouvoir se dire, même si on est dans une situation de négociation, Virginie, c'est le bon conseil. Vous dites merci. Au revoir, et vous rappelez vous-même le numéro que vous connaissez.
Ça, c'est facile à dire a posteriori. Comment est-ce qu'on déniche un faux conseiller bancaire?
Justement, en fait, on ne se prend pas la tête à le dénicher, on prend juste ces précautions-là. Enfin, le problème, c'est justement, il ne faut pas essayer d'enquêter soi-même pendant 3 heures. La meilleure solution, c'est surtout de ne pas accepter d'ouvrir une discussion et surtout de céder à la demande de quelqu'un qui vous appelle de manière spontanée. Non, c'est à vous d'entreprendre. Et puis en plus, vous savez quelles sont les difficultés aujourd'hui pour décrocher votre crédit immobilier, vous doutez bien que ça ne va pas être aussi simple que ça. Et on va pas vous mettre la pression, le banquier va pas vous mettre la pression de cette manière-là. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez un doute, et peu importe, vous arrêtez, vous raccrochez.
On ne vous contacte pas par SMS, on ne vous démarche pas par téléphone, ça c'est des précautions de base, mais effectivement, par moment la pression est forte.
Mais c'est ce que disait Virginie, c'est-à-dire parfois, vous avez sur 90% de chances que finalement ça soit complètement décorrélé de vos intentions, et donc de fait, vous allez voir le truc énorme, mais... Pour le coup, quand 10% de chance que vous soyez véritablement dans un moment de stress, de projet immobilier, etc., que vous êtes à un moment où vous n'avez pas le temps de gérer ça et vous dites oui, bien sûr, je m'en occupe, machin, etc. C'est ça le problème, c'est que du coup, la seule règle à avoir en tête, c'est non. Voilà, c'est tout.
Dans l'actu également, le plafond du déficit foncier doublé pour la rénovation énergétique des bâtiments. Je sais que vous aimez beaucoup ce sujet, Marie.
C'est une demande de la FNAM.
Qu'est-ce que ça change ?
Qu'est-ce que ça change ? Alors, c'est déjà bien d'avoir un peu plus. Ce plafond a été doublé, donc on est passé de 10 700 à 21 400 euros déductibles à la fois des revenus fonciers et par imputation ensuite sur le revenu global. Donc ça permet de faire un peu d'économie sur les impôts qu'on paye, tant sur les loyers que sur son revenu. Maintenant, il y a deux choses. C'est que, un, il faut que vous soyez au régime réel. Donc, si vous êtes au micro-foncier, je vais y arriver, ça peut être intéressant de passer au régime réel pour déduire tous ces travaux. Le petit bémol, c'est que une fois que vous avez fait ce choix, c'est irrévocable pour 3 ans, hein, quand vous passez au régime réel, donc il faut s'en souvenir.
Ah oui.
Mais ça peut être intéressant puisque vous avez ce report possible les années suivantes. Simplement, quand vous faites vos calculs, puisque vous n'avez pas, si vous faites des travaux de rénovation énergétique, vous ne pouvez pas choisir entre un déficit foncier classique et un déficit majoré. Et en fait, derrière, une fois que vous avez mis en place ce mécanisme de report sur les années suivantes, c'est un peu moins intéressant puisqu'il vous reste quand même les prélèvements sociaux à payer. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux, mais en tout cas, il faut faire ses calculs quand on doit, quand on est propriétaire bailleur et qu'on se lance dans des travaux de rénovation énergétique. Il faut bien faire ses calculs, il faut y passer un bon dimanche après-midi, je pense.
Appelez votre conseiller bancaire. Non, voilà.
Surtout pas. Et regardez ce qu'il est intéressant de faire, et en plus c'est cumulable, je rappelle quand même, avec MaPrimeRénov', etc., etc.
Tiens, puisqu'on parle de MaPrimeRénov', on a été interpellé par des propriétaires qui dénoncent les lenteurs, les blocages administratifs dans le versement de MaPrimeRénov'. Marie, on en est où ?
Bienvenue en France.
Que dire ? Victime de son succès, mal préparée, j'ai pas envie de me faire des ennemis à la
peut-être rappeler pour ceux qui nous écoutent pas tous les jours, Marie a beaucoup défendu MaPrimeRénov' et a beaucoup parlé du succès de MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que certains propriétaires attendent depuis plusieurs mois ?
L'idée, c'était pas de défendre. En fait, tout dispositif d'aide permettant aux ménages, quel qu'il soit, hein, propriétaire bailleur, propriétaire occupant, de faire des travaux de rénovation quand ils n'en ont pas forcément les moyens ou quand il leur reste à charger, c'est intéressant. Moi, je reste à dire que quand même, on reçoit assez régulièrement des gens qui distribuent des certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, aujourd'hui, donc c'est une aide... semi-privés, hein, sont plus puissants que MaPrimeRénov'. Et ça, on a tendance à l'ignorer. Donc oui, l'État, le gouvernement communiquent énormément sur MaPrimeRénov', puisque c'est l'aide publique par essence. Après, il faut se rappeler que les montants ne sont pas si énormes que ça. On est sur quoi ? 2 milliards et demi maintenant ? 2 milliards, 2 milliards et demi ? C'est quand même pas si énorme que ça quand on sait la falaise de la rénovation énergétique qui nous attend pour rénover les passoires qui vont bientôt être qualifiées d'indécentes, hein, quand même, progressivement. La difficulté, c'est que l'ANA avait peut-être pas forcément la structure qu'il fallait pour avoir une telle demande, parce que les obligations de rénovation font que y a aussi beaucoup...
Mais ces primes, Marie, elles sont distribuées via des sociétés indépendantes, des prestataires. C'est pas versé directement par le Trésor public.
C'est versé par l'ANA, en fait.
Via des antennes régionales.
C'est quand même suffisamment bien fait. Après, le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas une question de fond. Attention, c'est pas une question de d'où vient l'argent et comment. C'est plus une question pour moi. Hein, après, je me trompe peut-être. Presse. Mais c'est plus une question pour moi de d'ampleur de demande et en plus avec différents types de travaux. Je vous rappelle que maintenant, MaPrimeRénov', elle a beau être quand même intéressante, hein, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais elle dépend des travaux que vous faites, de vos niveaux de revenus, ça dépend de beaucoup de choses. Et puis, encore une fois, il y a toujours les délais entre à quel moment j'ai signé mon devis avec les artisans, à quel moment je vais... Enfin, ce n'est pas si simple que ça.
On m'a parlé d'un devis qui avait été signé il y a 6 mois. Hein.
Si j'ai dit, c'est pas elle, si simple que ça. Mais regardez pas, c'est pas moi qui distribue MaPrimeRénov', Stéphane, à un moment donné.
C'est très bien le sujet.
Ce que je sais, c'est qu'il y a des difficultés d'ordre administratif qui existent depuis des années, hein. Et je pense pas qu'elles soient pires aujourd'hui qu'hier. Peut-être que vous avez un pote qui attend 6 mois depuis 6 mois, mais en réalité, elles sont pas nouvelles, les difficultés. Mais encore une fois, passer par des prestataires extérieurs, ça peut être très intéressant parce que eux peuvent centraliser toutes les aides, type certificat d'économie d'énergie, mais aussi MaPrimeRénov'. Vous avez des gens qui vont s'occuper pour vous de régler tout ça et de vous dire au final vous aurez le droit à tant d'aides, à la fois de l'aide publique, de l'aide privée, de l'aide des collectivités locales, parce qu'il n'y a pas que MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie. Vous avez des collectivités qui proposent leurs propres aides en fonction des travaux que vous allez mener. Donc voilà, encore une fois, ce qui est intéressant, parce que c'est justement un millefeuille incompréhensible pour la plupart d'entre nous, mieux vaut passer par ceux qui savent, des experts qui vont tout centraliser pour vous et qui vont même vous mettre en relation avec des artisans qualifiés.
Allez, on va parler de l'immobilier tertiaire confronté à l'inflation, à la remontée des taux, aux contraintes environnementales. C'est encore un bon plan, le tertiaire, aujourd'hui, Virginie ?
Alors, oh là, vaste
Est-ce
question.
Que ça l'a été ?
Oui. Ça l'a été, bien sûr.
Mais pour les investisseurs qui ont investi dans le bureau sur les dernières décennies, oui, ça l'a été. La problématique, c'est aujourd'hui, quel est l'intérêt d'acheter du bureau prime à 2,75 quand vous avez l'OAT à 2,50 ? Donc, quelle est la prime de risque, en fait, que vous pouvez offrir sur ce type d'actifs ? Ça, c'est la problématique des investisseurs.
Mais c'est quoi la perspective aujourd'hui de l'immobilier de bureau ?
Alors, il y a eu un gros ralentissement. Si on prend les chiffres Immostat, il y a eu un gros ralentissement au quatrième trimestre. Sur le bureau Île-de-France, c'était moins 62%, je crois, d'investissement. Oui. Donc, il y a eu un gros coup de frein, puisqu'il y a une question sur les taux d'intérêt. effectivement le mécanisme, l'inflation et les critères environnementaux, puisqu'il va falloir aussi, hein, quand on parle de rénovation énergétique, on est aussi sur le parc tertiaire, se pose tout un tas de questions sur que fait-on de un immeuble qui est au bout d'une ligne de RER, mais pas sur la bonne fourche la plus empruntée, mal desservie, obsolète, qu'il faut rénover, est-ce qu'il a encore son utilité à être à cet endroit-là, pas forcément. Donc il y a un sujet de valorisation des actifs qui va falloir être, enfin qui va être traité de toute façon au fur et à mesure par les investisseurs, par les foncières, par les SCPI, etc., etc. Et toutes ces questions-là, on va y arriver cette année. On sait aussi, par exemple, sur les entrepôts que c'est une question de, d'artificialisation des sols. Il y a les nouveaux dispositifs. Donc il va y avoir sans doute une grande redistribution des cartes sur ce type d'actifs. Et tous les segments sont impactés au fur et à mesure. C'est-à-dire que le commerce prend le e-commerce de face. Vous avez la logistique qui... on parle souvent des grands entrepôts, mais il y a des problématiques de beaucoup plus... de petits emplacements plus près des commerces, des pharmacies, des je sais pas quoi, qui se posent. Tout ça, c'est de l'immobilier qu'il va falloir revaloriser, re-questionner, redimensionner, rénover. Et à la fin, on verra ce que ça donne.
Ça va être repricé. Ça va être repricé. Il va y avoir une baisse des prix. Donc ensuite, il y a une nouvelle hiérarchie des taux de capitalisation selon les typologies d'actifs. Tout le monde ne sera pas à la même enseigne. Donc aujourd'hui, il y a un marché de l'investissement en immobilier entreprise qui est quasi bloqué, quasi gelé, le temps que les valeurs se remettent à niveau, mais ce qui est un peu normal. Il y a toujours un effet retard dans l'immobilier, un effet encore un peu plus retard en France par rapport à des pays anglo-saxons notamment qui price et qui reprice tout de suite. Après, le marché de bureaux locatifs, bah, il y a une dichotomie entre l'hypercentre, le Paris QCA, avec à peine 2% de vacances et des loyers prime qui vont atteindre les 1000 euros, quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis, je crois qu'on n'avait jamais connu en fait. Et puis des bureaux en périphérie, en secondaire, qui sont moins demandés, où il faut réajuster les loyers pour réattirer les entreprises. Et grosso modo, qu'est-ce qu'elles font les entreprises avec le télétravail? Elles réduisent leur empreinte immobilière et à budget quasi équivalent, elles se recentrent ou elles se remettent dans des quartiers qui sont plus attractifs pour retenir leurs talents, pour les attirer. Et donc, il y a une prime à l'hypercentre.
Vous dites tous les deux la même chose, oui. Il va y avoir un grand nettoyage du secteur de l'immobilier tertiaire?
Il va y avoir un nettoyage. Après, c'est effectivement, soit la méthode anglo-saxonne, ça peut aller très vite, soit la méthode européenne, on va dire, ça va un peu moins vite. Et puis, ça dépend aussi de la plasticité du secteur. Si on prend la défense, par exemple, quand on voit les mesures d'accompagnement qui atteignent en moyenne 42%, je crois, enfin, c'est énorme. Donc, ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement, hein, c'est ces franchises de loyers que vous pouvez obtenir si vous vous engagez sur du long terme. Donc, voilà, il va y avoir ce grand chambardement, je ne sais pas si on peut appeler ça.
Oui, il y aura des changements.
Mais qui sera plus ou moins rapide.
C'est le marché, il n'est pas sur-offreur. Alors, il y a 4 millions de mètres carrés de bureaux vides, donc il y a certainement des bureaux qui sont obsolètes. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont certainement passer par la case friche tertiaire avant de redevenir du logement ou autre chose. Mais on n'est pas à Manhattan. À Manhattan, vous avez 20% de vacances. Donc, il y a un bureau sur 5 qui est vide. Donc, qu'est-ce qu'ils font de les tours? Ils font de la transformation en logement. Voilà, donc c'est une solution aussi qui peut-être arrivera. Elle est un peu plus compliquée en France parce que problèmes fiscaux, réglementaires, techniques, enfin il y a plein d'obstacles. Mais je ne crois pas au grand soir non plus sur le marché sur le marché du bureau. Par contre, ça va repricer, ça va baisser.
Il nous reste 3 minutes. On va parler, Gaël, des foncières cotées. Est-ce que 2023 sera l'année du rebond?
Quand on regarde 2022 avec les foncières européennes, l'indice a fait moins 36%, les foncières françaises ont fait moins 11%. On peut se dire que on atteint un moment de marché avec des décotes sur l'ANR, donc des décotes entre le cours de bourse d'une foncière et la valeur de ses actifs, de son sous-jacent, qui est en moyenne de 45%. Donc, ok, les valeurs vont baisser. Mais je ne crois pas qu'elles vont baisser de 45%, en tout cas pas chez tout le monde. Donc peut-être qu'il y a une possibilité de rebond des cours en 2023. Il faut peut-être jouer les foncières, qui restent quand même des valeurs de rendement. Donc les résultats annuels vont démarrer, je pense, la semaine prochaine avec les grandes SIC. Et la première qui a communiqué, qui est une foncière 100% logistique, Argan, a communiqué plutôt sur des bons résultats. Elle donnait aussi un message qui est assez clair. Je coupe l'endettement, là je coupe le robinet du financement et ma priorité en 2023, c'est de baisser mon niveau de LTV, mon ratio de loan to value, c'est-à-dire d'endettement sur la valeur de mes actifs, parce que c'est ça le vrai critère qui joue sur les foncières cotées, c'est leur niveau d'endettement, parce que l'argent aujourd'hui, eh ben, il coûte. C'est nouveau.
Et un dernier mot, les SCPI, je vous avais dit qu'on en parlerait. On peut s'attendre à quoi cette année pour le marché des SCPI ?
Il y a Corum qui a communiqué sur ses résultats. Alors Corum, c'est le meilleur élève de la classe. En tout cas, c'est celui qui affiche les performances les plus fortes. Ça fait grincer un peu des dents, mais grosso modo, c'est 6,88 en distribution. Et en performance réelle, c'est 11%. Performance réelle, c'est ce que je vous ai versé comme rendement, ce que je vous ai versé comme plus-value et ce que je vous ai versé comme augmentation du prix de la part. Donc 11%, c'est quand même un tout petit peu supérieur à l'inflation, à mon sens, en tout cas si j'ai bien calculé. Sur les SCPI, on va attendre les résultats 2022. En 2021, est distribué du 4,5%. Oui. Grosso modo, si on rajoute l'augmentation du prix de la part, c'était autour de 5,6%. Donc voilà, ce qui va se passer quand même pour les SCPI, c'est qu'on est sur une contraction de la distribution ou au moins sur un plateau du rendement par rapport à une augmentation du rendement des autres valeurs. Je pense notamment au livret A, on va comparer. Et aujourd'hui, quand vous avez du livret A qui va vous servir du 3% sans risque avec une liquidité parfaite et une SCPI qui vous verse 4,5 avec une liquidité qui n'est pas parfaite, qui n'est pas totale, et ben il va falloir faire son arbitrage. Après, ça reste quand même un marché relativement solide.
Merci beaucoup à tous les trois. Gaël Thomas, directeur de la rédaction de Business Immo. Merci à Virginie Grolot, journaliste au magazine Challenge. Et Marie Cœur de Roy, spécialiste de l'immobilier à la rédaction de BFM Business. À suivre dans un instant les marchés financiers. On va en parler avec notre invité Cécile Bourbon, Ports-en-Parts. Et puis dans les regards croisés, on parlera géopolitique avec cette inquiétude. La Russie promet de brûler les chars occidentaux. S'ils sont livrés à l'Ukraine, y a-t-il un risque d'emballement du conflit? Est-ce que ce risque inquiète les marchés financiers? On en parlera avec nos deux invités à partir de 11h10. À tout de suite.